Bienvenue sur e-commerçons, le podcast qui permet aux e-commerce d'atteindre leur plein potentiel. Je m'appelle Pierre Batty, je suis le cofondateur de Ceos et notre travail est d'accompagner les sites e-commerce pour qu'ils puissent enfin maximiser la rentabilité de leur budget Google Ads et SEA. Dans ce podcast, j'invite les meilleurs experts sur les compétences indispensables aux e-commerçants ambitieux. On va parler acquisition, optimisation de site, email, logistique, stratégie e-commerce et tous les autres leviers qui permettent de construire un e-commerce rentable et pérenne. Chaque épisode a été pensé pour que vous puissiez en ressortir des astuces et un plan d'action que vous pourrez appliquer immédiatement sur votre business. Retrouvez dans la description de chaque épisode une fiche récapitulative et des ressources complémentaires. Si ce podcast vous plaît, pensez à le partager, à vous abonner et à me laisser une note dans la section notes et avis d'Apple Podcast. Si vous souhaitez vous-même être accompagné par Ceos sur Google Ads, vous pouvez vous rendre sur le site ceos.fr ou alors sur le lien en description pour réserver un appel de découverte. Je vous laisse avec mon invité du jour. Bonne écoute! Salut Valentin.
Salut PB.
Je suis super content de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. À chaque fois que je fais les intros, j'ai toujours l'impression de raconter la même chose. Mais vraiment, c'est un sujet qui est hyper important, je pense, pour beaucoup de marques. On va parler d'internationalisation aujourd'hui, d'une façon globale et aussi sur la partie logistique. Merci beaucoup d'avoir accepté de prendre le temps de répondre à toutes mes questions et d'aider tous les internautes et tous les auditeurs de ce podcast. Peut-être pour commencer, je vais te laisser te présenter, savoir un peu qui tu es, d'où tu viens, ton parcours, etc.
Avec plaisir. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir. C'est très sympa. En plus, on a pu faire ça dans mon bureau, donc toujours un plaisir.
Livraison à domicile.
Livraison à domicile, exactement. Du coup, pour mon parcours, donc, je m'appelle Valentin. Aujourd'hui, je suis General Manager France de Hive, qui est une boîte de logistique e-commerce à la base allemande, maintenant un peu dans tous les pays d'Europe. On reviendra là-dessus après. Et mon parcours, donc je suis suisse à la base, donc pas français, donc c'est un petit peu un ovni dans cet univers-là. Et parcours un peu classique, j'ai vagabondé un petit peu. J'ai commencé ma carrière à Singapour où j'étais dans un fonds de capital risque orienté bien de consommation, donc consumer goods, un petit peu avec qui on travaille aujourd'hui, avec une optique où on rachetait des marques et on construisait autour avec des investissements de produits, de services qui étaient utiles pour la marque. Donc un exemple, tu montes un e-commerce, tu investis en Shopify parce que c'est la plateforme que tu vas utiliser. Et en parallèle, je gérais un accélérateur de logistique. Donc déjà un peu dans l'univers de la logistique, mais plutôt international. Du coup, mouvement de cargo et robotisation, digitalisation de tout ce qui est documentation. Toute la partie légale qui est un univers fascinant si on n'a jamais mis les pieds là-dedans. Et qui est assez unique parce que fondamentalement, on ne le voit pas, mais c'est, on l'a vu avec le Evergreen qui était bloqué dans le canal de Suez. Mais c'est structurellement extrêmement important que tout fonctionne sur la supply chain. Sinon, on n'a pas grand-chose dans nos supermarchés et dans nos magasins. Et les gens commencent à pleurer parce qu'ils n'ont pas de papier toilette. Donc, c'était très intéressant. Après, j'ai essayé de monter une boîte avec un investisseur français. C'est une marketplace pour la location d'espace à court terme pour le travail. Ensuite, on a pivoté sur location d'espace pour les créateurs de contenu, donc pour les gens qui cherchaient un studio de podcast, un rooftop pour faire un cours de yoga, une cuisine pro pour faire des recettes de cuisine.
Donc c'est de l'immobilier ça.
C'était de l'immo, complètement.
Avec la partie logistique.
C'était complètement différent. C'est dans l'optique, motivation d'entreprendre, tester un truc, aussi accompagné par quelqu'un qui avait déjà fait un petit peu ça, qui avait travaillé dans l'univers du luxe, mais qui était lié à l'immobilier. Et du coup, on a voulu pousser ça. C'était au tout début du Covid. Donc, le Covid était arrivé à Singapour. Moi, j'ai voulu rentrer en Europe. Donc, on a monté ça en Europe. Et succès mitigé, on va dire. Et à l'époque, approché par Hive pour lancer un pays. Donc, en gros, lancer la France avec un petit peu cette vision entrepreneur. C'est de ta boîte. Donc, tu vois un petit peu le truc d'entrepreneur où parfois, tu peux être très seul et les journées sont longues. Et c'est facile de procrastiner ou de perdre un peu la motivation. Et après un an et demi d'avoir fait ça seul, j'ai eu un peu le questionnement de qu'est-ce qui vient après. Et c'est arrivé au bon timing, c'est ouvrir un marché, c'est monter une boîte avec de l'argent et un produit qui fonctionne. Donc on ne peut pas rêver mieux.
T'as déjà le product market fit, t'as de l'argent pour pouvoir le lancer, c'est royal quoi, c'est signé ici.
Exactement, donc c'était parfait. Et c'était let's go, et en plus c'est un univers que j'adore, donc les grands fans de marques, moi j'ai baigné dans les marques depuis tout petit, mon père fait du marketing et a travaillé avec plein de marques de biens de consommation que plein de gens consomment. Et aussi, par hasard pour le coup, j'avais rencontré Justine et Thomas, les fondateurs de Respire, au tout début de Respire, en croyant aller à une soirée influenceur. Finalement, c'était le premier brainstorm de comment est-ce que à quoi Respire allait ressembler. Et des amis qui travaillent chez le slip français ou différentes marques en France, à travers, j'avais travaillé sur le Tour de France en étant jeune, à vendre les t-shirts jaunes, le Tour de France à n'importe qui. Et donc, pas mal des gens de cet univers-là ont fini chez des marques. Donc, j'étais resté proche de cet univers-là et j'avais suivi pas mal de ce qui se passait sur le marché français principalement, à travers LinkedIn aussi beaucoup. Donc, connecté à des gens comme Théo Lyon ou à l'époque Grégoire Gambato, mais c'est moins e-commerce. Mais je voyais un petit peu ce qui se passait et du coup, Hive, c'était le bon mix, le bon moment et le bon endroit. C'était cool aussi de bouger sur Paris et découvrir cet univers-là.
Ça te permettait aussi peut-être de remettre un peu les pieds dans la logistique que tu avais un peu quittée avec ton projet IMO, quoi.
Exactement. En plus, et du coup, moi, j'avais la vision de tout ce qui est très haut dans la chaîne de valeur. Donc, vraiment le début de ton fournisseur à ton premier entrepôt. Je voyais jamais le premier entrepôt. Et là, plus la vision sur premier entrepôt, enfin ton entrepôt d'ailleurs, et comment ça finit chez ton client. Donc, la partie vraiment un peu last mile qui me permet d'avoir la vision sur toute la chaîne de valeur finalement et d'avoir l'expérience un peu sur toute la chaîne de valeur. Ce qui est super intéressant parce qu'encore une fois, c'est un univers qui est caché, qui est derrière les marques et que peu de gens connaissent. Mais une fois qu'on s'y plonge, on peut, un peu comme quand tu vas sur une page Wikipédia et que tu vois un petit mot en bleu, tu cliques, tu finis sur 5 heures plus tard dans un univers complètement différent. Bah, la logistique, c'est un peu ça. Tu peux te plonger pendant des heures sur des sujets et découvrir qu'il y a plein de subtilités qu'on ne connaît pas et qui sont fascinantes et intéressantes. Voilà.
Ouais, et puis de toute façon, le traitement des flux, c'est un enjeu majeur sur... Déjà actuellement, c'est un enjeu majeur aussi en termes de développement des marques, des e-com, parce que mine de rien, une grosse partie du savoir-faire de certains très gros e-commerce est aussi liée dans la logistique. On sait que ça peut être aussi des barrières à l'entrée dans certains environnements, notamment si tu maîtrises très bien ta logistique dans un environnement complexe de très gros canapés à livrer et que tu es le seul à être capable de le faire. En fait, c'est aussi des barrières à l'entrée, des avantages concurrentiels. Donc la logistique, ça doit être impressionnant et extrêmement complexe aussi en fonction des produits, quoi.
Exactement, il y a un panorama, justement, tu as mentionné des canapés, c'est une problématique spécifique où il y a tellement de choses à prendre en compte. Pareil pour les petits produits, donc il y a vraiment un panorama et de choses à prendre en compte. Et ce qui est intéressant, et ça va être le sujet aujourd'hui du jour, c'est que de plus en plus de marques regardent le rôle de l'opérationnel dans leur internationalisation, dans leur setup. Et c'est là où ça devient aussi intéressant d'être à notre place. C'est qu'on n'est plus seulement un prestataire de service, mais c'est qu'on est vraiment un accompagnateur et un conseiller pour les marques, ou même les fondateurs, sur comment est-ce qu'ils peuvent développer leurs produits pour grandir.
Ok. Est-ce que peut-être on peut faire un point sur ce qu'est Hive rapidement pour avoir une idée, tu sais, les boîtes avec qui vous bossez, un peu le service que vous leur proposez. Et après, je te propose qu'on attaque un peu sur notre sujet. On s'est prévu tout un plan assez complet. Du coup, Hive, c'est quoi concrètement ?
Donc, solution logistique, donc nos entrepôts, des entrepôts en propre, des logiciels développés à maison avec l'idée de... On comprend ce qui se passe sur le terrain, on va développer un logiciel qui prend ça en compte et qui est adapté aux marques, ce qu'on appelle aujourd'hui DNVB, mais qui sont modernes et qui ont des enjeux d'expérience client surtout importantes. Et avec ça, on va leur offrir la transparence de ce qui se passe dans l'entrepôt. Donc on va éliminer la boîte noire de l'entrepôt, donc de l'opérationnel, et leur donner un outil vraiment, déjà facile à utiliser, mais qui donne un maximum d'informations sur ce qui se passe sur la chaîne de valeur. Un peu last mile, mais on fait aussi de la supply chain, donc tout ce qui est du fret, donc en amont, et en gros remplacer tous les interlocuteurs différents qu'ils ont pu avoir par le passé en un seul bloc, qui est idéalement un peu à la manière dont Shopify a révolutionné le e-commerce. Nous, on veut simplifier et démocratiser l'accès à l'opérationnel des e-commerçants, en gros, en très simple. Et avec ça, du coup, leur donner un maximum de contrôle sur ce qui se passe et sur leur business, parce qu'en gros, ils peuvent prendre des décisions plus adaptées, optimiser leurs coûts, pousser sur la croissance, développer leur marque, changer de transporteur, repenser leur logistique, repenser leur opérationnel et trouver les partenaires adéquats selon les pays, etc.
Donc en fait, concrètement, tu vas stocker pour eux leurs produits, tu vas faire leur expédition et tu vas leur proposer une sorte de dashboard qui leur permet de suivre un peu tout ça. C'est extrêmement simplifié, mais dans l'idée, c'est ça.
En fait, c'est exactement ça. Donc c'est vraiment ce qu'on offre plus physiquement, ce que tu as mentionné, donc c'est stockage de produits, préparation de commande, donc on stocke aussi le packaging ou les flyers, etc. On va préparer ta commande quand elle tombe dans ton Shopify et elle est synchronisée avec nos outils. elle tombe chez nous, quelqu'un chez nous va préparer ta commande, donc on va mettre les 3 articles, 2 articles, enfin les scanner, etc., les mettre dans le carton, sortir le bon d'envoi par rapport à le transporteur que tu as choisi, la destination, je ne sais quoi, les documents de douane si besoin, les mettre sur le colis et les donner au transporteur. Et nous, on gère aussi la relation avec le transporteur, donc tout ce qui va être envoi, et en parallèle, tu as tout ce qui va être du coup digital, de la partie physique et la partie digitale où tu vas avoir les emails qui se déclenchent, ou si tu veux utiliser Klaviyo, l'intégration avec Klaviyo, le lien de suivi qui est remonté, le poids du colis qui est remonté, si jamais tu peux voir s'il y a une différence entre ce que ton, si ton client n'est pas content et qu'il dit qu'il n'a pas reçu tous les produits, tu peux voir quel poids il a eu à différentes étapes de la livraison et de la préparation. Et voilà un petit peu en simplifié. Pareil, on gère aussi les retours. Donc tu peux aussi avoir toute la gestion de retour qui est pareil digitalisée. Donc tu vois ce qui se passe, tu as les photos, tu n'as pas besoin d'être sur place. Ou si tu as eu l'habitude, la marque a eu l'habitude de faire ça elle-même, elle ne perd pas complètement le contrôle. Ce n'est pas juste tiens, débrouillez-vous. Fondamentalement, en tant que logisticien, on est aussi le seul point de contact physique avec le client final. Et donc on se doit d'être irréprochable. C'est un vrai business de confiance. Si la marque vous fait plus confiance pour délivrer une expérience parfaite à leurs clients, bah ils vont changer de logisticien. Et une fois qu'ils ont trouvé quelqu'un qu'ils aiment bien, ils vont rester avec lui pour toujours, plus ou moins.
Okay, ouais. C'est comme quand tu prends une banque.
C'est un peu comme quand tu prends une banque, exactement. Exactement. Si demain ta banque elle est dans les journaux parce qu'elle a potentiellement dans une crise, tu vas te poser la question est-ce que je change de banque ? Si jusqu'à maintenant elle était irréprochable, les choses sont toujours bien passées, la façon dont tu vas approcher le problème va être différente que si par le passé tu as eu ton compte qui a été bloqué 3 fois, tu n'as pas réussi à retirer de l'argent 2 fois. Il y a eu des mouvements bizarres ou je sais pas quoi, ou ton conseiller te répond plus pendant 2 semaines, ben clairement tu vas te poser la question de est-ce que c'est le moment de changer de banque.
Ok, ouais, effectivement c'est hyper intéressant. Pour avoir un peu une idée, c'est quoi un peu les types de clients que vous accompagnez aujourd'hui en gros?
Complètement. Nous on spécialise dans cosmétiques, nutrition, hygiène de vie et petits accessoires de mode. Donc comme mentionné avant, on fait pas encore de la mode pure parce que ça demande un setup très différent, c'est quelque chose qu'on va explorer cette année. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore trop touché ça. Et des exemples de marques françaises que peut-être les gens connaissent. Perifit, c'est un exemple. Repeat, Respire, c'est un exemple parfait. De marques qui correspondent un peu à notre typologie de marque. Sync pour des protéines, etc. Qui sont des produits qui ont aussi un légèrement premium et qui veulent une expérience qui est unique pour leurs clients et qui vont un peu jouer là-dessus aussi pour que les clients soient dans un univers de marque. Il y a une vraie interaction, une communauté, côté communautaire, où j'aime la marque parce que aussi c'est une identité, c'est une mission, c'est des personnes derrière la marque et on arrive à offrir tous les outils pour qu'ils puissent continuer à faire ça, enfin que les marques puissent continuer à faire ça avec leurs clients final. Voilà.
Ok. Quand tu parles de ces marques-là, tout de suite, ça me fait penser à un des épisodes que j'avais fait précédemment avec Vincent Redrado sur de DNG, où on parlait justement de comment développer une DNVB et un peu tous les enjeux. Il y avait un enjeu qui était assez important pour lui, c'était de dire que finalement, pour beaucoup de ces marques françaises, le marché français est trop petit pour vraiment faire de la croissance importante. Et donc, en fait, il faut tout de suite penser européen, même parfois international. Sauf qu'on sait que l'internationalisation, ça reste quelque chose d'assez compliqué. Surtout quand tu es en concurrence avec des entreprises américaines, par exemple, qui, elles, ont tout de suite un pool de 350 millions de clients qui ont à peu près les mêmes habitudes. En fait, en Europe, tu as à peu près le même nombre de personnes, mais qui ont des langues différentes, qui ont des fonctionnements différents, des cultures totalement différentes. Mmh. Et tout ça fait que je pense qu'il y a un énorme enjeu sur l'internationalisation. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu pourrais peut-être nous... Je sais que tu accompagnes un peu des marques sur ça. Est-ce que tu peux nous définir un peu c'est quoi l'internationalisation pour toi? C'est quoi un peu les différentes étapes par lesquelles il faut qu'on passe?
Complètement. On va regarder principalement l'Europe, disons, dans ce cadre-là, parce que c'est, les États-Unis, c'est, comme tu l'as mentionné, c'est une langue, 350 millions de consommateurs, la Chine, j'en parle même pas. Et l'Europe, c'est un peu le côté complexe où chaque pays est intéressant en termes de taille. Enfin, la France, c'est, je pense, le deuxième ou troisième marché si on considère l'Angleterre dans l'Europe, mais deuxième marché du e-commerce derrière l'Allemagne. Donc quand même une population et une appétence pour la consommation en ligne qui est importante. Mais très vite, c'est limité par la langue, comme tu l'as mentionné, par aussi les habitudes des consommateurs. Et du coup, l'internationalisation, c'est non seulement de regarder les pays autour et comment est-ce que je peux m'implanter en tant que marque dans différents pays et vendre dans différents pays, mais aussi comment est-ce que je pense ma marque pour tous ces pays dès le début, ce que tu as mentionné avec Vincent Redrado. Et du coup, l'internationalisation, c'est que tu es dans un pays, tu commences dans un pays et tu regardes autour de toi quels sont les pays qui correspondent, les marchés qui correspondent le mieux à ta marque ou qui ont le plus de potentiel pour ta marque. et comment est-ce que tu adaptes, si besoin, tu adaptes ta marque par rapport à ce nouveau pays, ce nouveau marché. Il y a des pays qui sont avantageux, donc je pense que la Scandinavie plus UK, c'est que l'anglais, mais ça vient avec d'autres problématiques. Ou France, Benelux, Suisse, très intéressant, d'autres problématiques. L'Allemagne, Autriche, Suisse, très intéressant, aussi d'autres problématiques. Tu prends la Suisse, c'est un gros calvaire de douane et de frais supplémentaires pour les clients finaux. Pareil pour l'Angleterre, maintenant. Et après, il y a d'autres pays qui sont plus complexes, où là, on se limite à l'Italie, c'est que l'Italie, il y a un petit peu de la Suisse. L'Espagne, c'est que l'Espagne, le Portugal, c'est que le Portugal. Où là, il faut prendre en compte le potentiel pour la marque. Voilà.
Ouais, donc tu as vraiment, en fait, tu as un peu des espèces de blocs que tu peux bosser. Malgré ça, tu as quand même certains pays comme l'Italie ou l'Espagne qui sont assez solo sur leur manière de fonctionner. Quand on parle d'internationalisation, quand on a préparé un peu ce podcast, on avait défini ensemble trois gros points sur la partie internationalisation. On a parlé un peu de l'aspect commercial, marketing, tu vois, est-ce que ça vaut le coup de se lancer, comment, etc. On a parlé de l'aspect légal, administratif. On a parlé aussi de tout ce qui est le back-office, notamment la logistique. Je te propose qu'on peut-être on puisse décliner un peu ces trois points et qu'on puisse rentrer en détail. Si on commence sur la partie commerciale et marketing, c'est quoi toi un peu tes recos, les trucs que tu vois, les bonnes pratiques, etc. sur ces parties-là?
Complètement. Il y a partie commerciale, du coup, la base pour n'importe quel produit, pas seulement du e-commerce, c'est regarder quand même le marché, analyser le marché, qu'est-ce qui s'y passe, qui sont les acteurs, quelle est ma compétition potentielle, quel type de produit ils vendent, ou si personne ne vend mon produit, pourquoi? Est-ce qu'il y a une barrière spécifique à l'entrée, que ce soit réglementaire ou autre, on passera là-dessus après. Quelles sont les habitudes des consommateurs? Est-ce qu'ils consomment plutôt des packs? Est-ce qu'ils consomment des produits seuls? Est-ce qu'ils consomment une certaine taille de produit? Est-ce qu'ils achètent en magasin versus en ligne? Ça va compter aussi. Est-ce que j'approche plutôt du côté B2B, enfin retail? Est-ce que j'approche ça en pur e-commerce? Et je prends un exemple. Paris, c'est intéressant. La France, c'est intéressant parce que beaucoup de choses sont regroupées autour de Paris, enfin dans Paris même. Et du coup, les consommateurs consomment énormément dans un monoprix, dans des petits magasins qui sont à Paris, qui vont avoir une offre de petites marques. Et le en ligne se fait beaucoup autour de Paris et dans le reste de la France. Ce qui est intéressant par rapport à l'Allemagne, où le e-commerce est en fait gigantesque dans toute l'Allemagne, parce qu'il n'y a pas vraiment ce point d'ancrage, de dire dans une ville, il y aura ces magasins qui vont prendre ces marques. Il n'y a pas vraiment d'équivalent non plus à un monoprix. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte dès le début. Évidemment, la langue. Et la langue, c'est pas seulement traduire son site, c'est aussi comment est-ce que je fais du contenu, comment est-ce que j'approche ma stratégie marketing, et est-ce que je dois refaire du SEO ou la base de tout ce que j'ai créé jusqu'à maintenant. Et aussi mon produit, est-ce que je dois l'adapter, la langue du packaging, est-ce que mon produit, je dois l'adapter de manière plus conséquente, donc est-ce qu'il y a des réglementations additionnelles, est-ce qu'il y a, pareil, j'ai mentionné la taille du produit qui doit être repensée. Et est-ce que simplement je commence avec un produit ou est-ce que je lance tous mes produits d'un coup? Voilà, ça peut être aussi ça, c'est la base commerciale. Un peu, quelle va être mon offre? Quelle est l'existence du marché? Est-ce qu'elle est intéressante? Quelle est l'offre sur place? Et quelle va être mon offre sur place? Voilà, et comment est-ce que je vais communiquer avec les clients finaux?
Je pense que c'est hyper important de prendre ça en compte. C'est-à-dire que même avant de se dire je vais m'internationaliser parce que je marche bien en France, alors déjà, soyez très bon en France. En fait, c'est bête, mais même avant de parler d'internationalisation, même c'est quand même le sujet de ce podcast, la France, ça reste un des plus gros marchés e-commerce dans le monde. Derrière la Chine, les États-Unis, mais je crois que c'est le 3 ou 4e plus gros marché si tu enlèves ces deux gros pays. Et donc, il y a déjà des belles choses à faire ici. Et ensuite, tu as l'enjeu de te dire ce qui marche en France. En fait, potentiellement, ça ne marche pas ailleurs. Tu parlais du fait que les monoprix et le marché monoprix en France permet de faire découvrir des marques à une certaine clientèle qui va être intéressée par ça. En fait, en Allemagne, potentiellement, ce n'est pas du tout le cas. Potentiellement, tu vas aller en Autriche, il n'y a pas du tout ce type de site non plus. Est-ce que tu aurais des exemples, toi, de marques, peut-être une marque que tu aurais accompagnée sur ces enjeux-là et qui s'est retrouvée un peu dans cette situation de se dire, en fait, on s'est lancé peut-être un peu vite d'un point de vue marketing et commercial, où on n'avait pas vu ça dans nos prévisionnels, et on doit adapter les choses.
Alors, j'ai un exemple de marque qui a fait Allemagne-France, du coup, ça s'appelle Chef République, qui est très gros en Allemagne, qui fait des protéines en poudre, qui a voulu ouvrir d'un coup France et Italie, Et du coup, ils ont adapté leurs produits en changeant la langue, mais vraiment un peu du DeepL. Ils se sont attaqués très vite au marché et ils ont fait en gros un pic de croissance quand ils se sont attaqués avec influenceurs à balle, Nabila, Enco, qui promouvaient les produits. Et une fois qu'ils ont voulu établir sur le long terme, il y avait de l'intérêt, ils ont arrêté de faire du marketing cher et ça s'est un peu cassé la gueule. Et ils ont depuis fermé les marchés. Ils ne font plus que du Amazon sur ces marchés-là. Et je pense que dans ce cas-là, ils se sont lancés très vite avec une stratégie extrêmement agressive sans forcément prendre en compte non seulement l'évolution du marché de la nutrition de manière générale, dans quelle direction elle allait, les compétiteurs sur place, qu'est-ce qu'ils offraient. Si on regarde des marques françaises qui marchent très bien dans cet univers-là, NutriPure, NutriMuscle, c'est des marques qui sont très propres, très loin, enfin très propres dans le sens très peu d'ingrédients, très peu de goût fou dans tous les sens. Et Shape, c'était tout l'inverse. C'était pina colada, des choses un peu folles. Et je pense que pour le coup, le marché français n'était pas forcément attiré par ce genre de choses. Quand on voit la croissance d'autres marques, justement, qui sont plus vanille, chocolat, fraise, où là, le consommateur français est peut-être plus attiré par ça, des produits simples, peut-être des produits français aussi, fabriqués en France, etc. Où là, il y a peut-être eu un lancement un peu rapide sur le marché français, sans forcément les ressources adéquates pour tenir sur le long terme.
Ouais, donc en gros, ils sont allés trop fort d'un coup plutôt que de prendre le temps d'adapter leurs recettes au goût français qui sont peut-être un peu plus traditionnels, un peu moins chimiques, en tout cas peut-être un peu moins appréciés ici. Et donc potentiellement, du coup, ils ont totalement arrêté la France. Ils n'ont pas essayé de remettre à jour leurs produits pour le marché français.
Non, que du Amazon, du coup, mais de leurs produits allemands. Et en fait, ce qu'ils ont vraiment fait, c'est copy-paste. Donc ils ont pris ce qu'ils ont fait en Allemagne, copié en Allemagne et appliqué ça à la France et à l'Italie. Après le but c'est pas de les descendre non plus, mais c'est, ça peut marcher dans certains cas, et l'exemple très fort, une marque s'appelle Perifit qui cartonne, c'est le même produit partout, ça explose partout aux US, toute l'Europe, voilà. Mais pour, dans leur domaine, potentiellement il y avait des choses à revoir, en tout cas vu l'évolution de la marque, potentiellement à justement adapter aux goûts locaux ou aux saveurs locales, voire au marché. Et en fait, ce qui est compliqué à mesurer pour une marque, c'est que quand on rentre sur un marché, on a beaucoup d'ambition et généralement, on met beaucoup d'argent. Et une fois qu'il faut regarder un petit peu sur le plus long terme la rentabilité sur un marché, c'est plus compliqué. Et il y a cette grande phrase qui était dans le Limited Supply, je ne sais pas si tu écoutes ce podcast, où quelqu'un de chez d'une marque qui s'appelle True Classic, qui fait des habits, a dit l'acquisition, c'est la croissance. Donc le but, c'est uniquement de faire du break-even, donc de couvrir les coûts, voire de perdre un peu d'argent. Et tout ce qui est rétention, c'est la profitabilité, la rentabilité. Et du coup, si tu n'as pas cette valeur sur le long terme pour tes clients, ta marque aussi, elle en souffre dans les nouveaux marchés. Voilà.
Ok, extrêmement, extrêmement intéressant. Donc le copier-coller pur, non, en général. Ça peut marcher sur des trucs très, très spécifiques. Perifit en est un exemple, mais je pense que c'est très niche comme type de produit, et en fait les enjeux, les problématiques sont très sont vraiment les mêmes d'un pays à l'autre finalement. Mm-hmm. Mais quand tu commences à avoir des produits plus spécifiques, des couleurs spécifiques, une notion de style, de goût ou autre, potentiellement c'est totalement différent. Donc faut faire attention à ça sur la partie commerciale et marketing, bien analyser son marché. Il y a un autre aspect qui me paraît assez intéressant, qui est souvent, je pense, minimisé, c'est l'aspect réglementaire, l'aspect légal, administratif. Comment tu vois les choses, toi, sur ça? C'est quoi un peu les recommandations?
Peut-être juste avant de basculer sur ça, il y a quelque chose que tu as mentionné avant, je voulais réagir à ça, où tu as dit que la France, c'est un très gros marché et parfois, il faut surtout bien fonctionner en France. Il y a des produits qui ont fonctionné en France qui n'ont pas forcément fonctionné à l'étranger. L'inverse est aussi possible, dans le sens où le marché doit être éduqué pour comprendre tes produits. Et ça va dans la partie réglementation, et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a des sujets qui sont très sensibles, sur lesquels il n'y a pas forcément de lumière dans certains pays. Donc on ne va pas forcément parler de certaines maladies, certains dysfonctionnements, certaines utilités de certains produits. Et là, on peut prendre les exemples du CBD, qui est une réglementation spécifique maintenant européenne, mais avant par pays, ou de produits qui vont être des compléments alimentaires qui sont liés à certains états de santé. Ou dans un pays, je ne sais pas, je prends l'exemple, l'Angleterre est peut-être plus éduquée sur le sujet. Et du coup, ta marque va peut-être beaucoup mieux fonctionner là-bas que dans ton pays. Et du coup, ça peut être, en fait, ton expansion peut alimenter ta croissance dans ton pays initial. Ou là, tu dois encore faire un travail d'éducation à travers ta création de contenu, par exemple. Donc, c'est une autre façon de voir la chose que je trouve intéressante de mentionner, parce que c'est souvent lié à des produits qui sont réglementés, où il y a un besoin d'éducation important. Et dans la réglementation, Il y a la réglementation de ta marque. Donc, quand tu es dans un nouveau pays, une fois que tu as certains, aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle le one-stop shop qui est sur la fiscalité. Tant que tu restes en dessous d'une certaine limite de revenus dans les pays, tu peux utiliser ton numéro de TVA de ton pays initial, ton pays mère. Mais ensuite, il faut mettre en place ta fiscalité dans tous les pays, soit à travers une structure plus complexe avec une holding et des succursales, soit à travers des entités locales avec un numéro de TVA local. Et ça peut prendre pas mal de temps. Et étonnamment, les pays où on pense que ça va très vite, comme l'Allemagne, prennent beaucoup de temps. Et du coup, il faut penser ça en amont et bien regarder quelles sont les exigences. Et là-dedans, il y a aussi, en Allemagne, il y a le packaging, l'emballage, pardon, est réglementé différemment. Il faut un numéro spécifique, il faut qu'il soit 100% recyclable. Il faut mettre un label pour dire qu'il est recyclable. C'est des choses qui ne sont pas forcément obligatoires dans tous les pays. En France, ce sera bientôt le cas également. Il y a la réglementation sur ton produit, donc on a mentionné le CBD. Ça peut être réglementé différemment en Allemagne, en France, en Suisse. Par exemple, la fleur de CBD, je crois, dans certains pays, est interdite, dans d'autres pays, est légale. Ça peut être aussi sur ton packaging, donc quelle langue tu dois avoir, qu'est-ce que tu as mentionné comme ingrédient. Ça peut être aussi basique que ça. Certains pays vont avoir des exigences plus faibles. Pardon. Et même sur ta typologie de produit, donc s'il est lié à la médecine, est-ce que tu as besoin d'avoir une certification,
les labels, les certifications, et autres. Okay.
Pareil pour du bio, est-ce que l'organique est considéré pareil partout? Est-ce que tu as des règles spécifiques? Est-ce que tu as des choses à prendre en compte sur ton produit purement? Et puis, ou même sur la façon de consommer, donc ça peut être aussi 2 gélules par jour, et en fait dans le pays il y a une limite qui est plus basse sur les recommandations. Ou alors ton produit peut que être vendu à travers un pharmacien. Ça peut être des choses aussi basiques que ça qu'il faut quand même prendre en compte parce que les startups ont l'habitude de jouer avec les zones un peu grises, mais il faut faire très attention pour pas que le produit soit banni, interdit, pour que pas qu'il y ait des problèmes avec Meta qui s'arrête complètement ou ton système de Google Ads parce que tu utilises des mots-clés qui sont inadaptés. Il faut connaître un petit peu les réglementations. Et dernière partie un peu sur cette réglementation, ça va être aussi si tu vas commencer à engager des gens localement, quelles sont les choses à prendre en compte, typologie de contrat, les règles de légal local, pareil pour des contrats de retail, où il y a pas mal de choses à prendre en compte sur comment est-ce que ça va fonctionner, quel type de document je vais mettre en place, qui va être en charge de ça, qui est responsable, les avocats avec qui je vais travailler, l'agence avec qui je vais travailler, etc.
Ouais, et sur la partie contrat, tu as aussi conditions générales de vente, les trucs de confidentialité ou autres qui sont potentiellement aussi déjà rédigés dans la langue du pays en question et potentiellement aussi avec des règles spécifiques à ces pays-là. Tu mentionnais justement au début de la partie légale et administrative qu'il y avait des seuils de chiffre d'affaires. Est-ce que tu as une idée un peu de ce que ça peut représenter sur des pays comme l'Allemagne?
C'est 10 000 euros ciblés, dans toute l'Europe.
10 000 euros dans toute l'Europe.
Ça s'appelle One Stop Shop, c'est une réglementation européenne. Sur la TVA, justement, tant que tu fais moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires ou tu as moins de 10 000 euros de valeur de stock dans un pays, tu peux garder ton numéro de TVA mère. Mais nous, alors après, on recommande uniquement, on n'est pas des conseillers financiers et fiscaux. Très vite, ça vaut la peine, pour éviter de tomber dans des zones grises, de mettre en place une vraie fiscalité par pays qui est cohérente par rapport à aussi la vision dont la marque, que la marque avait, s'était faite de son expansion. Si tu as mentionné au début qu'il faut planifier ça dès le début, si la vision de la marque c'est de grandir vite et dans tous les pays, de mettre ça en place rapidement au début, ça évite de voir baisser le rythme dans un pays parce qu'on atteint cette limite, ou on n'a pas pensé à ça, on ne pourra pas le faire tout de suite. Ça cartonne sur Amazon, en fait on doit arrêter parce qu'on a atteint la limite. Et du coup, en pensant la marque, on peut déjà regarder ce qu'il faut mettre en place pour se développer à l'international et s'informer sur aussi combien ça coûte, combien de temps ça prend et qu'est-ce qu'il faut comme documentation, etc. qui sont clés et qui te permettent d'avancer plus vite en tant que marque une fois que tu atteins ces seuils, parce qu'en fait, tu n'as plus ces limites. Tu es comme dans ton marché local et tu peux accélérer.
Et juste pour bien comprendre, du coup, cette limite de 10 000 euros, elle est par pays ou elle est à l'ensemble de l'Europe?
Je ne suis pas 100% sûr, donc okay. Je ne vais pas m'avancer.
Ouais. Okay. Il me semble que c'est par pays. Je vais essayer de regarder, mais ok, par pays.
Ça s'appelle simplement le One Stop Shop VAT, donc TVA. Okay. Et c'est un truc européen.
Ok, je vais essayer de regarder, je mettrai ça en, comment dire, sur le récap du coup sur le site d'e-commerçon. L'autre sujet, si tu disais tout à l'heure que l'Allemagne, par exemple, on peut avoir une notion de, d'avoir des délais justement qui sont relativement longs, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Pour avoir juste une idée, c'est quoi des délais longs, ça représente quoi à peu près en durée?
Ça peut aller jusqu'à 3 mois pour avoir un numéro de TVA, voire plus si on commence à créer une succursale, une holding, etc. Et c'est pour donner une idée de pourquoi est-ce que j'appelle ça le lent, c'est qu'en Italie, ça prend une à deux semaines. Donc la différence est quand même significative. Une fois qu'on atteint, bah justement, si on commence à faire de la... On a testé le marché, on a lancé des ads, ça commence à prendre. Et quand on doit tout de suite dire, bah en fait, j'arrête le truc, alors que c'est pile le moment où les gens ont fait leur première acquisition. Enfin, la marque a fait l'acquisition, les gens ont fait leur premier achat. Ils sont chauds et ils vont vouloir acheter plus, où il y a un momentum, une dynamique sur laquelle il faut engranger un maximum de retours. Et on perd ça un petit peu en disant bah, stop. Et c'est pas un stop, je ralentis, c'est un stop, je dois m'arrêter.
Et c'est un hard stop, quoi. C'est fini. Quoi.
Exactement.
Et en soi, 10 000 euros, ça va assez vite en fait,
mine de rien. Selon les produits.
Ouais. Ok, super intéressant. Est-ce que tu vois d'autres choses qui pourraient être intéressantes à ajouter sur la partie légale ou réglementation? On a déjà vu pas mal de choses, mais il y a d'autres trucs auxquels tu penses?
Bah, il y a des petites choses après qui vont être très liées par pays, mais c'est lié à la logistique en l'occurrence. Et ça va un peu dans les CGV, c'est tout ce qui va être remboursement, comment est-ce que ça se passe. Et typiquement, et on va plonger là-dedans un peu plus tard, mais il y a des méthodes de paiement dans certains pays, exemple cash on delivery en Italie, où il faut aussi mettre en place une réglementation sur comment est-ce que ça va fonctionner pour que la marque récupère l'argent. S'il y a des cas de problématiques de non payés, etc., qu'il faut prendre en compte. Et ça, c'est plus... et après, ben, ça, donc, lié à ça, il y a aussi la partie bancaire, comment est-ce qu'on va fonctionner fiscalement, etc. Mais c'est des petites choses à prendre en compte qui ont moins d'impact, à mon avis, qui sont liées à la réglementation, mais qui ne sont pas aussi clés, même si importantes, à garder en tête surtout.
Ok, ouais, moi c'est extrêmement important. En fait, surtout ce dont je me rends compte, et je n'avais pas forcément cette vision, c'est que finalement, très très rapidement, tu peux être stoppé. Parce qu'en fait, comme on disait, 10 000 euros, c'est finalement pas tant que ça. Ça va très vite de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires dans un pays. Et en fait, tu te prends à hard stop alors que tu commences à avoir un mini momentum. Et en fait, je pense que c'est vachement... je pense que c'est un des derniers trucs que j'aurais fait, la partie réglementaire, en mode oh, c'est l'Europe, c'est simple, je peux naviguer facilement avec cette vision très personnelle des choses. Mais en fait, quand tu fais du business, non, c'est pas aussi simple que ça. Et je trouvais ça, c'est hyper intéressant.
Et ça vaut la peine de s'y pencher assez tôt. Après, il y a des systèmes pour backtracker, etc., si jamais tu as dépassé. Mais c'est tellement de travail administratif en plus que ça vaut la peine de s'y pencher dès le début. Et ça prend du temps, surtout. C'est surtout ça auquel il faut penser. Et nous, on a une marque chez nous qui, depuis qu'elle est chez nous, veut faire de l'international, elle a grandi très vite, qui fait la France, l'Italie et l'Allemagne, et qui est encore en discussion. Donc, ça fait presque un an qu'ils sont chez nous, qui sont encore en discussion de comment est-ce que la holding va être structurée, enfin, leur façon de la structure, en gros, la structure légale va être faite. Et c'est des gains gigantesques. Hein, on parle d'un 2 millions, 1 million par année selon la taille de la marque. Juste en ayant la capacité d'être présent localement avec une structure légale cohérente. Voilà.
C'est hyper important. Écoute, merci en tout cas pour toutes ces infos réglementaires. J'espère que vous avez apprécié, chers auditeurs. Le troisième point dont on voulait parler ensemble, c'est un peu la partie opérationnelle, un peu le back-office. Ce que je mets là-dedans, c'est ça va être tout ce qui est la gestion du site, la manière dont il va fonctionner, la partie paiement, la partie logistique évidemment, qu'on va pouvoir creuser un peu plus ensemble ensuite. C'est quoi, toi, tes recommandations un peu sur cette partie opérationnelle pure de livrer dans un autre pays et de s'internationaliser?
Donc, il y a, comme un peu mentionné au tout début, la partie langue et habitude va être importante. Donc, quelles sont les habitudes des clients, en gros, que ce soit sur la partie, si on prend la partie livraison en premier, la façon dont ils vont se comporter avec les transporteurs, est-ce qu'ils ont un choix spécifique, est-ce qu'ils veulent uniquement travailler avec un certain transporteur, est-ce qu'ils s'en fichent, ils veulent le moins cher, est-ce qu'ils ont des habitudes, par exemple, de point relais, d'express, qu'il faut prendre en compte, et du coup prendre en compte aussi dans sa façon de son BFR, son business plan en gros, est-ce que ça va nous coûter plus cher, est-ce que les gens achètent constamment pour avoir le panier qui dépasse la livraison gratuite si on offre ce genre de service. Exemple fort, la France est potentiellement le pays qui a le plus de points relais, enfin le plus d'habitude de consommation du point relais en Europe. C'est quelque chose qui est en développement dans les autres pays, que beaucoup de transporteurs poussent parce que plus vert, moins cher, très intéressant aussi à mettre en place, et de plus en plus de gens sont pas chez eux, et du coup un retour ou un repassage coûte beaucoup d'argent à un transporteur et à la marque, donc elles veulent aussi limiter ce genre d'offres. Et comme peut-être en Italie, sur certains pays, où les dom-toms, c'est un bon exemple, les dom-toms, on sait qu'avec certains transporteurs, les chances que ça arrive dans les dom-toms en bon état, dans le bon timing, dépendent vraiment un peu du transporteur qu'on choisit. Et un transporteur français, Colissimo pour ne pas le nommer, est beaucoup plus habitué à faire ce trajet-là que de prendre un Américain ou un Allemand qui aura peut-être moins l'habitude de faire ce trajet-là. Et du coup, le colis peut rencontrer des problématiques qu'il n'aurait pas forcément rencontrées avec le transporteur qui connaît bien cette route. Et ça va être équivalent pour les Canaries en Espagne, pour les îles en Italie, qui vont avoir certains transporteurs qui sont plus efficaces pour ces îles-là. Et il faut connaître ce genre de subtilité lorsqu'on met en place notre logistique. Voilà. Dans la même idée, il peut y avoir des avantages intéressants à penser sa logistique pour ces pays-là. Je prends l'exemple de l'Allemagne. Il y a une offre en Allemagne qui s'appelle le Warenpost, qui est un peu de la lettre suivie, mais un peu plus significative en termes de taille. Extrêmement intéressant au niveau prix, même sur toute l'Europe. Et il y a une limite de taille, donc une certaine hauteur de 5 cm, une certaine dimension. Et pour quelques millimètres, parfois, ça ne passe pas. Alors que si on repense légèrement le packaging, on a pensé le packaging dès le départ pour entrer dans ce genre de format, on peut gagner 1-2 euros sur la livraison. Et on a
à l'échelle, c'est ouf.
Gigantesque. On a fait l'exercice avec une de nos marques où, pour quelques millimètres, leur suremballage de produits dépassait un petit peu trop. Et juste en repensant ça, et on parlait d'un espace vide, hein, en repensant ça, bah voilà, ils gagnaient 2 euros par commande. Et on parle de clients qui fait 25 000, 30 000 commandes par mois. Les montants sont gigantesques. Enfin, à la fin de l'année, c'est des montants significatifs à prendre en compte. Et sur certains pays, ça vaut vraiment la peine. Là, j'ai pris l'exemple de l'Allemagne parce que c'est un énorme marché e-commerce. C'est une offre qui est imbattable. C'est de la poste allemande DHL, superbe en termes de qualité. Et ça peut être un point de lancement pour aussi l'Europe de l'Est, qui est aussi un marché en développement sur le e-commerce, pour l'Autriche, qui est un gros marché, et même pour la Suisse, qui est un marché un peu plus complexe à atteindre à cause des prix de livraison, justement.
Ok. Et dans la partie opérationnelle, au-delà de l'aspect logistique, tu parlais tout à l'heure du cash and delivery sur l'Italie. Il y a aussi, je trouve, une grosse notion de paiement. On a un peu l'impression en France que tout le monde paye par carte bancaire et PayPal, et puis grosso modo, c'est tout. Alors qu'en réalité, il y a quand même des moyens de paiement très locaux. Est-ce que tu as justement des exemples, peut-être, dans certains pays, de spécificités sur ça ?
Complètement. Il y a, en France, c'est assez varié. De plus en plus de gens se tournent vers Apple Pay ou des systèmes de paiement en un clic. Donc en France, il y a Just Checkout, Get Just, je crois que ça s'appelle maintenant, qui est une solution par exemple de paiement en un clic. Il y a, dans toute l'Europe, par contre, il y a une augmentation de Buy Now, Pay Later, donc tout ce qui est Alma, Klarna, etc., qui ont des solutions où on paye en fractionné. Ça, c'est en augmentation partout. Par contre, pour donner des exemples plus concrets, l'Allemagne, et j'avais aussi entendu ça dans un podcast des bruits du e-commerce, c'est Kaya, je crois, qui mentionnait ça. En Allemagne, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des cartes de crédit, on utilise encore beaucoup de cash. En fait, j'utilise énormément PayPal, par exemple. Donc, si on n'a pas PayPal sur notre site et qu'on ne prend pas ça aussi en compte sur la planification aussi niveau business, les gens ont payé à travers PayPal parce que c'est leur outil principal. Ensuite, en France, c'est assez mélangé. L'Italie, cash on delivery, donc il faut prendre en compte qu'il y a un système complexe. Le logisticien doit être capable de le faire. Le transporteur aussi doit être capable de le faire. Donc, on est aussi limité en termes de choix de transporteur. Aussi, quand on fait de l'international par rapport à ça, c'est là où, par exemple, des choses comme l'injection directe peuvent être intéressantes. Si depuis l'Allemagne, on ne peut pas faire du cash on delivery parce que DHL ne l'offre pas, d'avoir la possibilité de faire de l'injection directe, donc il y a un camion qui va partir de l'entrepôt, qui va aller dans le pays et mettre le colis dans le système postal local, on peut bénéficier de cash on delivery parce qu'on va utiliser Bartolini ou je ne sais pas qui en Italie, qui va être capable de prendre ça en compte. Ça, c'est les subtilités qu'on voit aujourd'hui. Il y a quand même la direction générale, c'est que de plus en plus de gens payent par carte ou par des systèmes de paiement qui sont simplifiés. Je mentionnais Apple Pay, PayPal, c'est quand même stable, et tout ce qui va être paiement fractionné qui est significatif.
Ça pourrait valoir le coup presque que je fasse un podcast avec un expert du paiement pour l'internationalisation, parce que je pense que c'est un vrai sujet. Je sais qu'en Allemagne, en Belgique, il y a aussi Bancontact, qui a un système un petit peu différent de ce qu'on peut avoir en France. Donc c'est un vrai sujet, cette partie paiement. Et je pense qu'il est du coup vachement dévalorisé aussi, pas pris suffisamment au sérieux en France, parce qu'on a un peu cette vision de se dire oui, mais bon, tout le monde fait comme nous, alors que pas du tout. Est-ce que tu as un peu d'expérience sur le cash and delivery? Je serais vraiment très curieux de savoir comment ça marche concrètement.
Comment ça fonctionne?
Ouais.
Alors, expérience de novice un petit peu, parce que je n'ai jamais vraiment fait le processus complet. Mais bon, tu passes une commande, tu dis que tu vas payer au facteur, en gros, cash and delivery. La commande est préparée, envoyée, le facteur y va, récupère du cash et le transporteur paye le logisticien et le logisticien paye la marque en l'occurrence. Enfin, en fait, la personne qui a le contrat avec le transporteur, en l'occurrence, dans notre cas, c'est le logisticien. La marque pourrait avoir un contrat direct avec le transporteur, paye un virement bancaire, mais le cash est remonté par le facteur. Et en fait, le facteur valide sur son système comme quoi il a reçu le cash. Après, la réalité physique, je ne sais pas comment ça se passe en termes de change, en termes de je ne sais pas quoi. Et la réalité, c'est qu'il y a des gens qui refusent des colis en cash and delivery. Le problème, c'est que la marque a déjà engagé des coûts et elle ne peut pas faire grand-chose. Parce qu'elle n'a pas d'empreinte de carte, elle a pas de... Donc c'est quand même une méthode complexe, mais c'est obligatoire sur le marché italien. Donc au-delà de comment le fonctionnement basique, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. De moins en moins de transporteurs l'offrent, juste parce que c'est trop de risques de ne pas être payé, en fait, simplement. Et puis, c'est aussi un bourbier administratif de devoir suivre post-livraison, la remontée d'argent. C'est plus la même relation, en fait. On commence à parler de... Chacun se doit de l'argent pour des choses qui sont déjà faites, déjà exécutées, et qui sont un peu plus complexes à prendre en compte. Il y a une notion de cash aussi à reprendre pour le transporteur à gérer, donc voilà, ça peut être assez complexe.
Ouais, c'est quand même un gros enjeu, parce que tu dois avoir une sacrée confiance en tant que marque. Enfin, moi, j'imagine, là, tu sais, on a un site, nous aussi, à côté. Je ne sais pas si j'enverrais, tu vois, mes produits en cash and delivery et je me dirais, le facteur, je lui fais confiance pour récupérer le cash et avoir le bon montant. Je fais confiance pour que ça remonte à la poste, que la poste me mette à mon transporteur qui va me le donner. Enfin, ça me paraît hyper... hyper opaque comme truc. En plus, j'imagine tout le monde prend un peu des petits frais par-ci par-là. Donc au final, t'as quand même tes frais de paiement. Quoi. C'est même pas comme si tu récupérais du cash ou quoi que ce soit. Ouais, sacrément challengeant en fait comme truc.
Ouais. Et comme t'as dit, c'est très opaque et il y a beaucoup de pièces amovibles où l'argent peut disparaître, l'information peut remonter, etc.
Ouais,
très très complexe.
Ouais. Ouais, j'imagine que c'est un gros enjeu. On a parlé de pas mal de choses du coup dans cette partie opérationnelle, un peu back office. On a parlé de logistique, on a parlé de paiement, on a parlé un peu de l'adaptation de son packaging, etc. pour justement fit dans des environnements logistiques. Est-ce que tu vois toi d'autres choses qu'on pourrait rajouter sur cette partie-là et qu'on n'aurait peut-être pas abordé avec mes questions qui vont changer un peu le sujet?
pas spécifiquement sur la partie opérationnelle pure. Je pense qu'il y a une vraie question stratégique qui est plus importante que ça. Par exemple, typiquement, de choisir d'envoyer qu'un seul produit, le best-seller ou deux produits, plutôt que d'envoyer toute la gamme. Et ça va être, le seul truc que j'ai en tête comme ça qui me vient, qui va être lié à ça. Au-delà de ça, c'est vraiment, encore une fois, le paiement, le transporteur sont des choses assez clés. La supply peut de temps en temps être importante, donc le parti plus en amont, de comment est-ce que je déplace mes produits si besoin. Si par exemple je fais déjà produire au Portugal, pourquoi est-ce que je l'envoie en France pour l'envoyer au Portugal si jamais j'ouvre le Portugal comme pays? Voilà, c'est des choses comme ça un peu plus stratégiques à penser, plus que de l'opérationnel pur.
Ouais, mais finalement c'est quand même assez important parce que tu as vraiment cette logique de dire j'optimise mes flux parce que si je dois me payer un aller-retour France-Portugal alors que j'ai ouvert le Portugal et que le produit au Portugal, ça n'a peut-être pas de sens, tu vois. Déjà d'une, ça n'a pas de sens écologiquement parlant, mais d'un point de vue financier, c'est pas très pertinent non plus, quoi.
Complètement, complètement. Peut-être lié à ça aussi, il y a la partie est-ce que je vais en e-com ou est-ce que je vais en retail, qui est liée un peu à de l'opérationnel, de est-ce que je garde ma façon de fonctionner ou est-ce que je me lance à travers quelqu'un d'autre, ou même en revendeur, qui est intéressante à prendre en compte. Pareil, c'est un peu stratégique plus ops, mais valable aussi pour les marques.
Ça, c'est des choses justement que... on parle peut-être un peu plus de Hive, mais ça m'évoque une question. C'est des choses que tu es capable de faire, c'est-à-dire à la fois du picking très spécifique d'un produit que tu vas envoyer à telle personne dans tel pays, mais aussi peut-être de la livraison, je dirais, wholesale, où tu vas livrer un magasin, ça va être une palette ou ce genre de choses.
Complètement. Donc, à la base, on avait réfléchi la chose uniquement pour du e-commerce, parce que c'était là où l'enjeu était le plus intéressant, typiquement sur la partie expérience client. Et on s'est rendu compte d'une chose, simplement les business se sont étendus à faire du omnicanal et du coup inclure la partie B2B, que ce soit vendre au Galeries Lafayette, Monoprix, Smallable, Flux et Co, ou dans d'autres pays, d'autres choses, et Douglas par exemple pour les parfums. Et du coup, important de comprendre comment ça fonctionne aussi. Et du coup, on a mis en place aussi cette capacité-là d'envoyer que ce soit du colis ou de la palette. Et généralement, c'est sur rendez-vous, c'est des spécificités importantes. Donc, Galeries Lafayette, c'est un produit par carton avec étiqueté, numéroté, des étiquettes spéciales par exemple pour Amazon, etc. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais effectivement, on fait les deux, B2C, B2B, avec naturellement plus de connaissances en B2C. Mais on a livré partout en B2B, on sait faire.
C'est assez important, je reviens à ce que je disais au début de l'épisode avec, Vincent justement, où on parlait vachement d'omnicanalité et du coup il poussait vachement sur, en fait t'es une marque et tu fais du wholesale aussi à un moment donné, et le wholesale c'est un gros levier de développement et c'est une logistique totalement différente, et pour avoir travaillé dans d'autres boîtes, chaque en fait client a sa spécificité, veut sa palette, même parfois ils ont une taille de palette spécifique pour leur business. Enfin, c'est vraiment extrêmement complexe quoi.
Ouais, exact. Et ça sert aussi, le wholesale, ça sert aussi à mettre en avant ta marque et de pouvoir dire je suis chez Flux, ça peut servir ton e-commerce. Donc c'est aussi intéressant pour les marques de développer ces canaux-là. Et il y a des plateformes comme Anchor Store qui ont rendu ça extrêmement simple, très simple de mettre juste ma marque sur Anchor Store et de voir si ça prend un petit peu. Des petits magasins qui vont prendre ça, et même ils fournissent le transporteur, le label d'envoi, etc. Donc c'est extrêmement simple, il faut juste qu'un logisticien soit capable de préparer, comme tu l'as mentionné, les palettes ou les colis par rapport aux spécificités du revendeur.
C'est un sujet, comme tu disais, on commence à gratter, on peut aller très très loin sur cette partie-là. Ce que je te propose pour finir ce podcast, ça fait déjà près de 45 minutes qu'on enregistre, le temps passe vite. J'aimerais bien qu'on essaie de proposer à nos auditeurs une sorte de plan d'action. Imaginons, on est un site e-com, une marque e-commerce, on souhaite s'internationaliser. Quel serait un peu le plan d'action sur la partie logistique, puisque c'est vraiment toi ton expertise. Comment je me lance? Je suis à zéro aujourd'hui, je veux ouvrir l'Allemagne, supposons. Mm-hmm. C'est le deuxième marché européen en termes de e-commerce, ou premier européen en termes de e-commerce. Je veux ouvrir l'Allemagne, comment je m'y prends?
Première étape, regarder le marché et le tester. Et en gros, comment est-ce qu'on va donc adapter aussi donc la partie langue, ma compétition, etc. Mais la meilleure façon, c'est de faire du test and learn. Et en France, on a la chance d'avoir des institutions qui sont aussi qui poussent pour que les marques françaises se développent à l'international. Donc il y a plein de choses à aller chercher, que ce soit des bourses, des crédits sans intérêt, etc. pour développer un nouveau marché. Même parfois, ça va être chez Google. Il y a du Google Ads, Google for Startup, qui offre des ads pour s'étendre à l'international. Et ça peut être la façon dont on va tester le nouveau marché. Donc on met des ads dans le nouveau pays par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à notre recherche, par rapport à ce qui fonctionne dans notre pays aussi pour notre produit. On pousse, que ce soit de l'influence, que ce soit du classique, statique, etc. Et on regarde les résultats et en fait, ça permet d'avoir un premier retour sur le marché. Est-ce que les gens sont même intéressés pour mon produit? Quelle est mon audience? Peut-être qu'elle est complètement différente. Peut-être qu'en France, je vends à des 20-25 ans. En Allemagne, je vends à des 40-45 ans. Et du coup, je dois peut-être adapter ma façon de communiquer avec eux. Après ce premier retour, c'est là où il y a justement la pensée, est-ce que je dois changer mon produit, est-ce que je dois l'adapter différemment. Évidemment, si vous êtes un produit pharma, un produit un peu plus subtil, il y a toute la partie réglementation qui est quand même importante à faire un petit peu en amont, mais je ne la pense pas dans ce cadre-là. Une fois qu'on a du coup eu ce retour de marché, soit on peut blaster à fond parce que ça a cartonné et on pousse. Et du coup là, c'est réfléchir, ok, stratégie sur non seulement le court terme pour développer l'image de marque, la notoriété et attirer des premiers clients, mais comment est-ce que je les garde aussi après? Est-ce que je dois repenser mes flots de mail dans Klaviyo? Est-ce que j'ai la capacité de répondre au support client dans la langue locale aussi? Est-ce que l'anglais va suffire? Est-ce que je dois adapter de mes CGV, etc. déjà maintenant? Mes premières choses, c'est par exemple traduire le site, faire des ads, voir le retour des clients. Ça peut être le premier truc qu'on envoie depuis notre pays. Moins de réglementation, pas besoin de changer la langue du produit, etc. Si ça fonctionne, regardez un petit peu quelles sont les stratégies opérationnelles intéressantes, opérationnelle et commerciale intéressante pour se développer dans le pays. Donc justement là, changer peut-être la langue des produits, avoir le produit dans la langue, si c'est on a un jeu de cartes chez nous par exemple, est-ce qu'on peut adapter les instructions en allemand? Et puis par exemple, explorer la partie injection directe ou la partie packaging, qu'est-ce que je peux repenser pour déjà me préparer à la suite? Chez mon fournisseur en amont, comment est-ce que je peux me préparer à la suite? Identifier peut-être des revendeurs, si on peut faire en parallèle un revendeur qui va prendre des plus grosses palettes, qui va me donner de la notoriété aussi, qui me permettra d'amener du monde sur mon site. En Allemagne, les gros revendeurs, je ne les ai pas de tête, malheureusement, mais il y a beaucoup moins qu'en France. Donc c'est un peu plus niche, il faut aller chercher un peu plus niche. Est-ce qu'il y a des partenariats à faire pour de la com? Est-ce qu'il y a des, dans, chez mon logicien, on peut faire des setups comme je mets un flyer dans une marque allemande pour voir un petit peu si on a une même audience, est-ce que ces gens vont acheter chez moi, et je vends ça un peu, j'achète ça comme du marketing. Donc il y a une boîte en France qui s'appelle Squad qui fait recommandation de produits en post-achat. Et donc en tant que marque, je peux dire j'ai une affinité pour travailler avec telle ou telle marque, et donc je vais vendre ma visibilité dans mon checkout, donc tout ma thank you page même. Tous les gens qui achètent chez moi, disons que je fais 100 000 commandes par mois, j'ai 100 000 personnes qui regardent mon thank you page, je peux vendre ça comme du marketing pour une autre marque. Et ça, typiquement, pour un nouveau pays, ça peut être très intéressant. Et ça peut être fait de manière uniquement digitale ou de manière physique, donc avec le flyer. C'est là où ça devient intéressant aussi de travailler avec un logisticien international. Donc ça, c'est les premières étapes. Si ça continue à prendre avec l'injection directe, avec tout ça, bah, on peut adapter notre expérience client vraiment complètement. Et donc là, pareil, réglementation, est-ce que je suis bon avec la TVA, est-ce que j'ai un partenaire local pour le marketing, pour la logistique, pour je ne sais pas quoi. Est-ce que je prends en compte tous les systèmes de paiement, tous les transporteurs que les gens souhaitent avoir, et quels sont les retours de mon produit. Constamment récupérer le feedback. Et du coup, là, je m'implémente comme une marque allemande et je développe le marché allemand. Voilà. Et tout ça, donc ça, c'est vraiment en gardant un univers de marque. Quand j'ai mentionné des revendeurs, c'est aussi possible de faire ça à travers Amazon, qui est un super partenaire pour tester des marchés. Parce qu'en gros, ils ont la notoriété, le trafic. Et si le produit est adapté à Amazon, ce n'est pas toujours le cas, si le produit est adapté à Amazon, ça peut être intéressant de commencer par ça. Parce que c'est un canal fort, logistique déjà présente, livraison déjà prise en compte, relativement facile de prévoir aussi comment ça va nous coûter. Et du coup, ça peut être une façon de driver un peu du business à travers Amazon aussi.
Ok, donc en gros, si je résume un peu les étapes que tu m'as partagées, si on s'arrête sur l'aspect logistique, dans un premier temps, on fait comme on fait en France. On utilise ce qu'on a déjà actuellement et on voit ce qu'on peut faire pour tester, voir déjà si en minimum on fait de la vente. Deuxième étape, on peut travailler avec donc l'injection, qui est pour rappel le fait d'avoir un camion qui part de tes entrepôts français et qui arrive sur le marché local et qui envoie dans le système de poste local. Et une fois que cette partie-là, elle est bien optimisée, ça te permet de tester aussi en fait ce que tu disais, les adaptations de packaging, tout ça, pour que tu puisses déjà commencer à optimiser tes flux sur ce marché-là et comprendre la manière dont ils fonctionnent, les différents transporteurs, etc. Et une fois que ça c'est carré, en fait, tu deviens un local en fait. Donc tu vas mettre ton stock dans le pays si tu as la possibilité. Exactement. De le faire et tu vas commencer à offrir des livraisons 24 heures, 48 heures et tout le marketing qui va bien autour de la partie livraison et qui est particulièrement importante.
Exactement. Et ça peut être fait avec un seul produit au départ, donc un produit best-seller, les trois best-sellers, je ne sais pas quoi, comme avec toute la gamme pour justement voir quels vont être les best-sellers dans le nouveau pays. Ça peut être un peu aussi une stratégie. Mais complètement, c'est ces trois étapes-là qui sont clés.
Ok, super, super intéressant. Écoute, je pense qu'on va arriver sur la fin du podcast. Avant de te laisser, j'ai toujours trois questions de fin. Et je sais que tu m'as préparé deux, trois exemples de boîtes avec qui tu as bossé. Et souvent, ma première question, c'est est-ce que tu as des anecdotes ou tu vois des exemples de boîtes avec qui tu as bossé sur le sujet avec les enjeux dont on a parlé dans le podcast. Et je crois que tu m'as préparé des trucs. Donc, qu'est-ce que tu aurais à me partager sur ça?
J'ai quelques exemples. J'en ai mentionné quelques-uns pendant la discussion, mais je pense typiquement Repeat, du coup, c'est une entreprise qui fait des culottes menstruelles qui a explosé ces dernières années. En plus, récemment en France, ça va être partiellement remboursé par le ministère de la Santé. Et du coup, ils vont commencer à vendre en pharmacie parce que c'est intéressant. C'est uniquement remboursé quand c'est recommandé par un pharmacien. Donc, ça, c'est des choses à prendre en compte qui peuvent augmenter des ventes. Ou eux, ils ont très rapidement testé les marchés autour de la France. Donc en France, ça a commencé à prendre. Ils ont vu que l'Allemagne, il n'y avait pas trop de concurrents. Ils ont lancé l'Allemagne. Ils ont vu que l'Italie, il n'y avait personne. Ils ont lancé l'Italie. Ça a vraiment pris. Et là, ils sont en train de tester les UK, donc l'Angleterre. C'est en train de prendre aussi. Et tout d'un coup, ils se sont rendus compte, eux, c'était un peu la situation. En fait, on envoie tout depuis la France, ça nous coûte une fortune. Comment est-ce qu'on peut repenser notre approche? C'est là où on a commencé à travailler ensemble. Et depuis un an, ils travaillent sur une structure qui est aussi cohérente, du coup, pour couvrir tous les pays. Vu que c'est pas seulement un pays, un numéro de TVA. Eux, ils vont ouvrir 5-6 pays d'un coup avec tout ce qui va avec, toute la réglementation qui va avec, tous les changements qui vont avec. Eux, ils ont dû repenser tous les flyers, les produits, le marketing, le site, les ads, est-ce que ça marche avec les influenceurs, qu'autre chose. Et aussi, surtout, la partie légale qui, eux, leur prend beaucoup de temps, leur a pris beaucoup de temps sur justement avoir... ils ont choisi le succursale dans chaque pays avec une holding, etc. Qui prend du temps à mettre en place. Et du coup, fondamentalement, sur un an, Ils ont continué à payer les prix les plus élevés, enfin des prix élevés pour envoyer à l'étranger, alors qu'ils auraient pu déjà bénéficier de la partie internationale. Ils avaient déjà vu qu'ils avaient des résultats. Et c'était plus sur la partie accélération légale qu'il fallait prendre en compte. Comme tu as dit, ils ont pensé ça un peu à la fin, en mode ben, on pourrait de toute façon le faire. Mais comme on navigue sur des zones grises dans certains pays, c'est plus complexe de naviguer que d'autres, et il fallait prendre ça en compte. Donc ils sont encore là-dessus, un an plus tard. Voilà, on verra ce qu'ils ouvrent, on espère cette année, tous les pays, ça devrait bien se passer. Et justement, eux, ils vont gagner, ben, comme j'ai mentionné, presque 1 million par année, juste en étant, étant présent dans les pays versus envoyé depuis la France.
Ouais, c'est ça, entre les coûts de la logistique, la TVA, les différents frais administratifs, etc. En fait, rapidement, tu vas faire ce qu'on disait, des économies de 2 euros par colis, mais multiplié par le nombre de commandes, c'est monstrueux.
Exactement.
Ça explique vachement bien la partie légale et l'importance de la partie légale. Est-ce que tu aurais des exemples aussi sur d'autres sujets dont on a abordé, dont on a parlé un peu dans l'épisode?
Donc plus sur la partie éventuellement les transporteurs à choisir. Quand on a lancé une marque qui s'appelle Happy Glam qui fait des vernis à ongles, à la base en Allemagne, donc ça, c'est un exemple typique, ils ont voulu tester à des nouveaux marchés. Ils ont testé notamment l'Italie et ils ont vu que ça prenait pas trop et ils se sont rendu compte qu'ils ne feraient pas le cash on delivery. Ils ont mis en place la partie injection directe où là, camion depuis l'Allemagne qui va en Italie dans le programme pour pouvoir mettre en place le cash on delivery. Ça a commencé à prendre, ils se sont dit tiens, quelle est la prochaine étape ? Se localiser, numéro de TVA, maintenant ils sont présents en Italie, ils envoient directement depuis Italie, expérience complète. Et ce qui est intéressant, ce qu'ils ont aussi remarqué en parallèle, c'est que l'injection directe, ça prend quand même du temps, il faut imaginer un camion qui traverse tout le pays, que la réduction de temps de livraison, ça a aussi réduit le temps passé en support client. Des gens qui posaient des questions en mode où est mon colis, parce que même si on paye en cash on delivery, on se pose les mêmes questions. Et du coup, ils ont réduit de, je crois, 17% plus ou moins le temps passé par commande en support client, et ça pareil, c'est des économies importantes très intéressantes à mettre en place auxquelles on pense pas forcément parce que on voit la livraison 24 heures ou 48 heures comme un luxe, enfin c'est un luxe hein, mais on pense pas forcément à ces petites choses qui sont aussi qu'il faut prendre en compte lorsqu'on change de setup et qu'on va gagner sur d'autres aspects qu'uniquement la logistique pure.
Ouais, parce que ta logistique, c'est ton point final, mais elle a un impact sur toute ton expérience client, elle a un impact sur ton taux de conversion, sur énormément d'éléments. Et en fait, in fine, c'est presque plus un investissement qu'un coût. Enfin, j'aime bien cette différence entre investissement et coût. On a souvent ce truc aussi avec la pub. Les gens disent, ouais, la pub, c'est un coût. Oui, mais si t'avais pas de pub, t'aurais peut-être pas de vente. Et là, en fait, si t'avais pas une très bonne logistique, t'aurais peut-être pas de repeat. Donc, comme tu disais tout à l'heure, t'aurais peut-être pas du coup la profitabilité importante.
Exactement. Ouais.
Est-ce que tu as un autre exemple pour nous ou on a fait le tour de tes exemples?
Alors, j'en ai plusieurs, mais ça peut pareil sur les transporteurs. On a une marque qui fait des boissons énergétiques, qui s'appelle Holy Energy, ou Holy maintenant uniquement, qui était allemande, qui a grandi avec nous en Allemagne, dans nos premiers clients, passé de pas grand-chose à une très grosse marque, qui s'est lancée en France sans le mondial relais, sans le point relais, pas juste mondial relais, sans le point relais, qui a vu ses taux de conversion augmenter de 30% le moment où ils ont mis le point relais. Donc, ça montre aussi l'importance de comprendre son marché. Ils ont aussi adapté leur stratégie marketing. Ils étaient beaucoup drivés par les influenceurs. Ils ont adapté à du mailing qui apparemment fonctionne du coup un peu mieux en France, avec une stratégie de fermer son magasin certains jours en disant c'est VIP only aujourd'hui, voilà votre email, si vous faites partie de la prochaine liste VIP, c'est tiré au sort chaque 2 mois ou je ne sais quoi. Ça fait exploser leurs ventes. Et c'est quelque chose qu'ils ne faisaient pas en Allemagne, qu'ils ont maintenant répliqué en Allemagne. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes à développer. C'est selon du coup la maturité du marché, les gens, est-ce qu'ils font confiance aussi aux canaux d'acquisition. L'Angleterre, apparemment, les influenceurs sont très peu... les gens font très peu confiance aux influenceurs versus en France, où on est un peu plus attaché aux influenceurs, où on leur fait un peu plus confiance. Peut-être juste simplement la typologie d'influenceur est différente, je ne sais pas. Mais c'est chose à prendre en compte. Et là, ça, c'est un exemple assez fort entre échangement de transport, échangement opérationnel et échangement un peu de stratégie commerciale.
Ouais, c'est hyper intéressant. Ça illustre vachement ce que tu disais. Là, du coup, dans l'autre sens, une marque qui arrive en France et où ici, on a un réseau de points relais qui est ultra développé. Et si tu ne proposes pas points relais, En fait, les gens, ils sont en mode « non, je veux pas, en fait ». Et enfin, je vais pas commander, je suis au boulot, j'ai pas le temps de m'en occuper, je vais aller chercher, quoi. Donc,
je serai pas chez moi, je vais pas le récupérer, il va faire un retour, je vais perdre 2 semaines.
Ouais, c'est extrêmement énorme. Je sais que je commande quasiment que en point relais quand je peux. D'ailleurs, je pense que je raconterai une anecdote dans le truc d'une mauvaise expérience que j'ai eu en point relais une fois sur des chaussures, mais là, on a plus trop le temps. Est-ce que il y avait d'autres anecdotes que tu voulais nous partager ou
Je pense que ça fait le tour. Et après, il y en a plein. Enfin, il y a toujours des nouvelles choses en logistique. Comme j'ai dit, on peut toujours trouver des nouvelles choses à gratter. Que ce soit les colis perdus, les colis retrouvés, les palettes envoyées au mauvais endroit. Ça arrive toujours. Les palettes perdues dans un entrepôt parce que on ne sait jamais ce qui se passe. Ça, il y en a plein. Mais on va se concentrer sur les choses positives.
C'est ça, ouais, exactement. C'est aussi la magie de la logistique. J'ai une dernière question pour toi avant de te laisser. J'aimerais savoir, c'est quoi toi aujourd'hui les ressources, les médias et autres que tu conseillerais à un e-commerçant pour continuer à se former sur la logistique, bien comprendre cette partie peut-être internationalisation et même peut-être de manière plus générale, tu vois, sur le e-commerce.
Alors, sur toute la partie logistique, il y a tous les blogs des logisticiens. Nouveaux logiciens. Moi, on regarde beaucoup les Américains. Généralement, ils ont un petit temps d'avance, donc on va regarder un petit peu ce qui se passe. Que ce soit ShipBob, ShipHero, etc. Ils ont des blogs assez détaillés, donc c'est toujours intéressant de le lire. Le nôtre, j'espère aussi, est intéressant sur Hive et de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et après, le meilleur moyen, c'est de discuter avec ses pairs, donc d'échanger. C'est pas forcément un canal digital accessible tout le temps, mais discuter avec les gens de leurs différentes expériences, que ce soit avec les logisticiens, avec des stratégies d'opérationnelles. Et du coup, ils vont aussi partager généralement des stratégies e-commerce que je trouve intéressantes. Et là, en ce moment, c'est cool de se revoir en personne, donc les événements networking, etc. On en a ce soir, mais plein de gens en organisent, des clubs, etc. Il y a plein de choses. Et là, je pense que c'est une vraie ressource. Sur la partie e-commerce, moi, je suis un grand fan de podcasts maintenant. D'où le podcast. Mais Limited Supply, pareil, américain, Nick Sharma, super intéressant, où ils plongent dans des marques et ils partagent leur expérience. Alors, c'est beaucoup du « je parle et vous écoutez », mais on peut voir l'envers du décor d'une marque américaine et un peu à quoi ils pensent ou ils traversent. Et je pense qu'il y a plein de choses à aller chercher là en termes de connaissances. Et après, moi, je suis devenu un grand fan de LinkedIn. Et si on trie correctement, il y a plein de choses à aller chercher. Alors, moins sur la logistique, plus sur l'e-commerce. Sur logistique, parler à des gens qui ont fait de l'ops, parler au directeur des opérations des marques, faites-vous conseiller un petit peu à droite à gauche et surtout parler aux logisticiens aussi. On ne fait pas que de la vente, on essaie aussi de guider les marques et du coup de faire une heure au téléphone de temps en temps ou de venir à un événement. Ça peut être intéressant, on peut en ressortir avec plein de connaissances ou écouter le podcast et e-commerçant.
Écoute, merci, j'apprécie la mention de fin. Où est-ce qu'on peut te contacter et puis voir un peu. Je sais que tu publies régulièrement sur LinkedIn aussi, mais
j'essaye. LinkedIn, c'est un bon canal. Donc j'essaie de poster et surtout d'être présent. Je trouve que c'est facile, c'est un bon média, c'est assez authentique. Et après, je pense que c'est toujours disponible à travers le site Hive, sur mon email aussi si vous voulez, valentin@hive.app. C'est aussi avec plaisir, comme j'ai dit, passer du temps pour discuter, regarder vos opérations, plonger un peu dedans, faire des sortes d'audits de ce qui se passe. Et on fait pas mal d'événements. Si ça vous intéresse, pareil, un petit email, un petit message sur LinkedIn, c'est possible de vous y retrouver, de vous rencontrer là-bas. Voilà.
Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Valentin, pour cet échange extrêmement intéressant sur la logistique. J'espère que tous nos auditeurs ont maintenant une stratégie bien structurée pour gérer leur logistique et leur internationalisation et surtout prendre en compte un peu tous les aspects de l'internationalisation qui ne sont pas juste la logistique. On allait beaucoup plus loin que ça. Donc, merci beaucoup pour ton temps et puis à très bientôt.
Merci à toi. Merci Salut. Beaucoup, bébé. Ciao, ciao.
J'espère que cet échange vous a plu et vous sera utile. D'ailleurs, vous trouverez en description de cet épisode une fiche récapitulative qui résume tous les éléments clés de l'épisode. Pour y accéder, suivez simplement le premier lien en description. Si vous avez apprécié l'épisode, pensez à le partager à 3 personnes de votre réseau. Cela pourrait les aider autant que cela vous a aidé. Si vous souhaitez être accompagné par Seos pour enfin maximiser la rentabilité de vos budgets Google Ads, vous pouvez vous rendre sur le site seos.fr ou alors sur le lien en description pour réserver un appel de découverte. On se retrouve lors du prochain épisode. Salut !